Chers amis, c'est notre joie d'être de retour dans une de nos nombreuses résidences secondaires. Vous savez, c'est passionnant de beaucoup voyager dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Parce que tout en circulant, mon épouse et moi, dans notre voiture, nous évoquons, en traversant telle ville, tel ami, chez qui nous pourrions d'ailleurs nous arrêter s'il savait, tout ce réseau de chers amis qui sont chers à nos cœurs. Et nous sommes heureux de vous revoir. Nous réjouissions à l'avance de cette occasion qui nous réunit. Nous croyons qu'elle a été préparée aussi dans la prière, même si les dates indiquées dans notre circulaire de fin août, début septembre, puisque certains d'entre vous la reçoivent, étaient légèrement différentes, puisque normalement il était prévu des rencontres entre vendredi et dimanche, et puis ça a changé depuis, ce sont des choses qui arrivent. Et donc nous retrouvons déjà ce soir pour nous pencher sur ce thème de la direction de l'Église locale. Nous allons d'emblée lire un premier verset dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 2. Au verset 6, le rappel d'une prophétie concernant la venue de Jésus à Bethléem, Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, un conducteur. C'est un des mots utilisés dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, pour désigner les conducteurs de l'Église locale. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ce conducteur sera le berger par excellence. Nous allons plus loin dans la première épître de Pierre, donc vers la fin du Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2 tout d'abord, 1 Pierre 2, dont nous lisons le dernier verset, un beau verset, 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné, c'est le mot qui a donné conversion, vous êtes retourné vers le berger et le gardien, l'épiscope, l'évêque de vos âmes. Vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Et puis, au chapitre 5, le texte qui va servir de base à notre réflexion, nous lisons au chapitre 5 les 7 premiers versets. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu ou faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant ou en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, au moment fixé, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même se soucie de vous, lui-même prend soin de vous, ou lui-même, en quelque sorte, se soucie de vous. Nous venons de lire successivement deux passages, un verset, puis ce beau passage d'1 Pierre 5, qui font partie d'une circulaire. Une lettre circulaire adressée aux croyants dispersés dans le nord de l'actuelle Turquie. C'est une lettre d'encouragement, d'exhortation, d'encouragement et d'exhortation à tenir ferme dans une épreuve qui est en cours, mais qui n'est encore qu'à ses débuts. Elle est loin de connaître son paroxysme, elle va devenir de plus en plus sévère pour les croyants de cette région, de ce que l'on appelait l'Asie mineure. En effet, la première épître de Pierre a été composée avant le déferlement des persécutions qui, d'onde en onde, se sont étendues à l'ensemble de l'Empire romain à partir de Rome, sa capitale, en l'an 64, sous le règne du fameux Néron. Et le rédacteur inspiré, Pierre, pressent que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Et il écrit donc de la part de Dieu pour équiper l'Église qui est appelée à souffrir. C'est une épître qui doit être lue et méditée d'une manière toute particulière aujourd'hui. Parce que, je le crois, nous vivons une situation de grande fragilité où tout peut basculer très vite au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux, et où il faut absolument que l'Église de Jésus-Christ dans nos pays se prépare, non seulement à l'enlèvement de l'Église, qui est certes centrale, mais aussi au moment extrêmement difficile qu'elle peut être appelée à connaître très rapidement. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit simplement d'être réaliste selon ce que Dieu dit dans sa parole. Nous pourrions dire que cette première épître de Pierre est un abrégé de la foi et de la conduite chrétienne, ou encore un manuel de savoir-vivre pour ambassadeur dans un pays étranger hostile, ou encore un guide pratique à l'usage des voyageurs vers le ciel. En pénétrant quelque peu dans cette épître, nous découvrons très vite, dans le chapitre premier, un thème qui est tout particulièrement mis en évidence par le rédacteur inspiré. Le thème central de l'obéissance des croyants. Dès le début, au chapitre 1er, au verset 2, il est question de ceux qui sont étrangers, dispersés, mais élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, littéralement pour l'obéissance et la participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ils sont élus pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Nous sommes élus pour obéir à Jésus-Christ. Pas d'abord pour nous sentir bien dans notre peau, pas d'abord pour nous centrer sur un quelconque bonheur personnel. Ça, c'est ce que Dieu veut nous donner s'il lui plaît par-dessus tout, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous sommes élus pour obéir à Jésus-Christ. Et puis un peu plus loin, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Ici, désir dans le sens négatif, le mot peut avoir les deux sens, positif et négatif, que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, comme des enfants obéissants. Et le contexte des versets 13 et suivants, 15 et suivants, nous indique que c'est l'obéissance à Dieu notre Père. Puisque vous, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte, avec un profond respect, marqué à la fois d'amour, de tremblement, d'adoration pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous êtes les enfants du Père et en tant qu'enfant de ce Père, vous lui devez obéissance. Obéissance à Christ, verset 2. Obéissance à Dieu le Père, versets 14 à 17, et puis versets 22 et suivants, 22 à 25, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Et le contexte immédiat, c'est-à-dire les versets suivants, indique que cette vérité est tout entière dans les Écritures. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment, un terme très très fort, les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25, cette parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous avez obéi à la vérité, vous allez continuer jour après jour à obéir à la vérité. Obéir à la parole de Dieu. Triple obéissance. Dès l'aube de cette première épître de Pierre, à Jésus-Christ, à Dieu le Père, à la parole de Dieu. Triple obéissance, soumission. Il y a dans cette première épître de Pierre, dans le texte grec du Nouveau Testament, deux termes qui sont utilisés. Ici, dans ce chapitre premier, pour les trois passages que nous venons d'évoquer, c'est toujours le même terme. Et ce terme est un mot composé. Vous avez tout d'abord le verbe « entendre » ou « écouter ». Et un préfixe qui situe cette écoute. Quand il s'agit d'obéir, littéralement, cela veut dire « écouter en se plaçant dessous ». Quand j'écoute le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole, j'accepte de me placer sous leur autorité. Avec tout ce que ça va bien entendu signifier concrètement parlant. Par contre, désobéir, vous avez à nouveau le même verbe, entendre, écouter, mais vous avez un autre préfixe qui signifie écouter à côté de. Et en plus avec un sens de mouvement qui s'écarte de plus en plus. Celui qui désobéit, c'est quelqu'un qui, tout en entendant, prend ses distances, refuse de rester sous l'autorité de celui qui parle, il s'éloigne parce qu'il veut profiter orgueilleusement de son indépendance. Donc nous avons dans cette première épître de Pierre, d'emblée, dans ce chapitre premier, une triple obéissance et soumission à l'autorité du Père, à l'autorité du Fils, à l'autorité des Écritures, reconnue, acceptée comme la vérité. Alors c'est clair, c'est simple, c'est limpide. Ce sont les Écritures qui parlent, ce n'est pas Maurice Decker. Le disciple de Jésus-Christ se soumet à l'autorité du Père et du Fils, et bien sûr, cela va de soi, donc à l'autorité du Saint-Esprit, exprimé dans sa parole. À partir de là, nous devons évoquer deux degrés d'autorité. Nous allons peu à peu vers notre sujet central. Nous en préparons le chemin, mais nous essayons de poser des bases plutôt que d'évoquer l'exercice de l'autorité sans mettre un fondement. Le fondement est très important. Il y a dans les Écritures l'indication d'une autorité directe et ensuite des indications d'une autorité déléguée. L'autorité directe, c'est l'autorité de Dieu le Père lui-même qui exerce une autorité parce qu'il est le Dieu absolument souverain. Un des grands thèmes du livre de Daniel, où des dizaines et des dizaines de versets affirment la souveraineté, la domination absolue de l'Éternel qui abaisse, qui élève les rois, y compris le roi des rois qui s'appelait Nebuchadnezzar à cette époque. Il y en a eu d'autres dans ce même livre. Il est le Dieu absolument souverain. Autorité de Dieu parce qu'il est le Dieu créateur. Il est le potier qui crée, qui façonne le vase, et qui oserait contester, dira l'apôtre Paul dans Romains 9, verset 21 en particulier, qui oserait contester l'autorité de ce potier. L'autorité de Dieu est aussi l'autorité du Dieu recréateur. Il a autorité sur moi parce que non seulement il est mon créateur, mais il m'a recréé en Jésus-Christ. C'est la grande affirmation qui doit soulever le cœur des membres de l'Église de Jésus-Christ dans le nord de la Turquie, et qui est souligné d'emblée dès le verset 3, « Béni soit Dieu », hein, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » L'apôtre Pierre va accumuler les raisons de se réjouir, d'espérer, de persévérer, dans toutes les situations de difficulté que l'on peut connaître, directement à cause de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons été merveilleusement régénérés. Il est le Dieu recréateur, il est le Dieu juge, nous l'avons vu au verset 17, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Et puis enfin, il est digne de son autorité par la beauté de son caractère. Ceci figure aussi dans cette première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 16. « Soyez saints, vous serez saints, car je suis saint. » L'autorité de Dieu n'est pas simplement une autorité à la casquette. Dieu n'a pas besoin de taper du poing sur la table en disant « Je suis Dieu, un point c'est tout ». Dieu a une beauté de caractère extraordinaire et c'est elle qui doit nous conduire à une soumission humble, respectueuse, pleine d'amour à son égard. Il est un Dieu tellement extraordinaire, surtout quand on connaît tant soit peu les visages si souvent difformes, plus que disgracieux, et les caractères tellement tortueux de toutes les divinités qui peuplent le monde des religions. Quelle différence ! L'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ, autorité directe de Jésus-Christ, il est le Seigneur. Il a autorité comme le Père. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Puis nous avons dans 1 Pierre 3, 22, Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà l'autorité de Jésus-Christ. Il a autorité pour sauver les hommes. Nous avons plusieurs passages qui le disent, dans Jean 17, verset 2, par exemple. Et puis, il est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église. Et en particulier, dans 1 Pierre 5, verset 4, il est le souverain berger. Il est le souverain berger, il est littéralement le berger en chef. L'autorité directe de Jésus-Christ sur ses enfants vient de ce que il est le souverain ou le chef, le berger en chef sur toutes les brebis de son troupeau. Et puis enfin, nous arrivons à l'autorité des Écritures. L'Écriture sainte fait autorité car elle est parole de Dieu. Il est impossible de se soumettre à Dieu sans se soumettre à sa parole. Et nous avons là la Marseillaise de l'autorité des Écritures dans 2 Timothée 3, verset 16, n'est-ce pas? Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit équipé parfaitement, adapté, totalement pourvu et propre à toute bonne œuvre. Autorité de Dieu, autorité de Jésus-Christ, autorité des Écritures. Voilà pour l'autorité directe dans les Écritures. Nous aurions pu prendre tous ces textes, mais nous devrions alors passer 15 jours ensemble. Ensuite, nous avons l'autorité déléguée. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu exerçait son autorité par le biais des prêtres, des prophètes, des rois. Et les prêtres, prophètes et rois déléguaient à leur tour leur autorité à ceux qui devaient les assister dans leur charge. Vous avez un exemple très fort dans le livre de l'Exode, au chapitre 18 et dans les versets 21 et suivants, où Moïse, chef du peuple, croule sous son cahier des charges, n'est-ce pas? Et son beau-père va donc lui donner un sage conseil. Verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. » Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Alors, dans la Nouvelle Alliance, nous avons un texte qui est très intéressant. Je lis simplement un petit échantillon de Marc 13, verset 34. Marc 13, 34, nous avons là une petite parabole. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. » Le maître en question, c'est le Seigneur Jésus. Il part pour un voyage, c'est même un long voyage, dit un autre texte. Il retourne auprès du Père et il remet donc l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il remet l'autorité. Et c'est là que la première épître de Pierre est particulièrement intéressante. Il y a plusieurs sphères de délégation de l'autorité divine. Il y a tout d'abord l'État, l'autorité civile et militaire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 et suivant, d'emblée, dans la partie pratique de cette épître, vie chrétienne pratique, il est question de l'attitude du croyant, du disciple de Christ au milieu des païens. Et au verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Littéralement, à toute institution même établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc l'autorité civile. Première sphère de délégation de l'autorité de Dieu, l'État. Ensuite, immédiatement après, l'apôtre Pierre considère l'autorité professionnelle dans l'exercice de son métier. Verset 18, serviteur, mais ici ce n'est pas le même mot que nous avons tout à l'heure trouvé en Marc 13, 34. Ici, nous avons un mot qui pourrait être rendu aujourd'hui par l'expression, parce que elle est reconnue, gens de maison, domestique. Mais le mot domestique a pris un sens trop restreint. À l'époque, le terme qui est utilisé évoquait tous ceux qui travaillaient sous l'autorité d'un maître de maison. Vous aviez le grand patron, et vous savez que les familles n'étaient pas toutes petites comme nos familles modernes, qui en plus sont en train de se désagréger à vitesse grand V, mais la famille non seulement couvrait parfois plusieurs générations, mais en plus il y avait un nombre très élevé même de domestiques, de subordonnés, ayant pour les uns des rangs de mercenaires, dirions-nous, les autres un rang qui pouvait être celui de l'esclave. Il y avait toutes sortes de degrés, et une maison, dans certains cas, pouvait même comporter des centaines de gens de maison. Alors c'est le terme qui est utilisé ici. Gens de maison, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont une scoliose du caractère. C'est le terme grec qui est utilisé, puisque scoliose est un mot grec francisé, et nous avons le mot scoliose ici dans le texte. Et on comprend très bien. Hein, je vous ai entendu rire, parce que rien de tel que d'utiliser ce mot, surtout appliqué à un caractère, pour se rendre compte de ce que cela peut signifier. J'ai dû interrompre ma formation quand j'étais jeune homme pendant 2 ans à cause de graves problèmes de santé, et j'ai donc travaillé comme secrétaire dans une mairie d'une ville frontalière de 10 000 habitants, et mon grand patron, c'était le maire de la ville, et le maire de cette ville, eh bien, il avait une scoliose du caractère. Et nous avions à quelques-uns rendez-vous avec lui dans son bureau tous les samedis matins pour faire le bilan de la semaine écoulée et préparer les activités de la semaine suivante. Et le vendredi soir, je commençais à avoir des crampes à l'estomac à cause de cette scoliose qui allait nous valoir des moments difficiles le lendemain. Voilà l'autorité professionnelle. Je ne lis pas la suite du texte, puisque nous n'allons pas l'étudier. Et puis ensuite, Pierre passe à une autre sphère de délégation de l'autorité divine. Il y vient immédiatement au chapitre 3, verset 1er. « Femme, que chacune soit d'eux-mêmes. » Voyez donc, il ne faut pas dissocier le début de ce chapitre 3 de tout l'enseignement général de cette épître. Vous avez le mot « d'eux-mêmes » qui oblige à examiner tout un contexte. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi à ces versets. « Femme, que chacune soit d'eux-mêmes soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole... » Vous remarquez que le thème « l'obéissance », il est partout, hein, il est ici aussi. Et ici, le verbe obéir, c'est un verbe qui signifie, c'est un verbe différent, qui veut dire se laisser convaincre, se laisser persuader, ne pas être rebelle. Donc il s'agit de mari qui refuse de se laisser convaincre, de se laisser persuader, qui persiste dans une rébellion par rapport à la vérité des Écritures qui leur est annoncée. Alors il y a un enseignement extrêmement riche et précis à l'épouse qui est dans cette situation. Et nous pouvons bénir Dieu de ce que dans son amour et sa sagesse, il ait prévu un enseignement aussi capital que celui qui figure dans les versets suivants. L'autorité domestique. Domestique, c'est-à-dire dans le cadre du foyer, de la maison. N'est-ce pas? Nous n'aurons pas, dans la première épître de Pierre, l'extension de cette autorité domestique à la relation entre les parents et les enfants. Là, l'apôtre Pierre, pour des raisons de persécution, de mentalité dans cette région d'Asie mineure, c'est spécialement focalisé, centré sur la relation entre une femme convertie à Jésus-Christ et son mari non converti à Jésus-Christ, en ajoutant ceci, c'est que manifestement, il s'agit d'un couple dont les deux, par principe, ne connaissaient pas Jésus-Christ au moment où ils se sont mariés, l'un des deux s'est converti à Jésus-Christ, l'autre n'a pas suivi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'enseignement qui est ici ne s'adresse pas à des situations profondément regrettables que Dieu ne veut pas pour ses enfants, c'est-à-dire celle, par exemple, d'un enfant de Dieu qui appartient à Jésus-Christ et qui, par esprit d'indépendance, par rébellion par rapport à la parole de Dieu, par aveuglement et séduction, épouserait quelqu'un qui n'est pas de la même sphère de lumière, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Cet enseignement peut s'y appliquer, mais il ne justifie en aucun cas un mariage entre les ténèbres et la lumière. Il faut le dire. Donc, autorité domestique, et puis nous arrivons au début de ce chapitre 5 à l'autorité ecclésiastique, l'autorité dans le cadre de l'Église, cette fonction des anciens, les rapports qui doivent exister entre les anciens et les plus jeunes, vous avez vu au verset 5, de même, voyez, de même, là encore, nous ne devons pas isoler cet enseignement du chapitre 5 et du verset 5 et des versets 5 et suivants de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, de l'autorité directe, etc., n'est-ce pas ? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et puis vous avez « et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles, dans l'abondant choix qui était à ma disposition sur ce thème dans les Écritures, j'ai été conduit à retenir ce chapitre 5 parce qu'il permet aussi de vraiment s'adresser à tous. Alors il y a des choses que dimanche matin, dans l'étude, dans le cadre du culte, nous dirons à tous, et dans ce « tous », il y aura d'une manière toute particulière votre serviteur. Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez soumis. Soyez soumis. Dans le domaine de l'État, du travail, la famille, de l'Église. Soyez soumis. Le mot qui est utilisé ici était utilisé dans le langage militaire en particulier. C'était un mot qui se rapportait aux dispositions militaires sur le champ de bataille pour une stratégie efficace. C'est donc un mot relatif à la fonction. Ce n'est pas un mot relatif à l'essence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il n'est pas dit dans les Écritures, tu dois être soumis ou tu dois être soumise parce que tu es une femme et parce qu'une femme est dans son essence inférieure à l'homme. Ça, ce n'est pas le message des Écritures. De la même manière, dans l'Église, il y a un conseil d'anciens, il n'est pas dit aux autres, vous devez être soumis parce que dans votre nature, dans votre essence, vous êtes inférieur. Et que l'autre est sorti de la cuisse de Jupiter et qu'il peut se réclamer de cette divine origine pour exercer son autorité. C'est véritablement au niveau de la fonction que tout se situe. Le terme, ajoutons ceci aussi, c'est un terme intéressant, d'ailleurs il nous fait un peu grincer des dents là aussi, il y a un verbe et un préfixe, et le verbe a donné en français le mot taxe. Les taxes que nous payons, la taxe d'habitation qui réjouit tant nos cœurs, n'est-ce pas, ben c'est notamment ce mot. L'expression dans son ensemble signifie mettre à une place déterminée, mettre en ordre, ranger, disposer, mais disposer sous, donc sous quelqu'un qui est le grand stratège en quelque sorte. Voilà exactement la définition du mot. On pourrait le traduire autrement. Après la définition que je viens de donner, soyez subordonnés. Là, nous avons quasi l'équivalent du mot grec, soyez subordonnés, acceptez une place inférieure en fonction dans un ensemble ordonné parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quelqu'un a écrit ceci, la soumission est l'humble reconnaissance de l'ordre divin dans la société. Et les Écritures nous le disent, nous devons accepter librement, intérieurement, sans qu'une contrainte extérieure soit nécessaire, de reconnaître l'autorité de personnes occupant des positions définies. Alors, vous l'avez remarqué, nous touchons un domaine délicat. Parce que ces sphères de soumission étaient déjà particulièrement délicates dans le contexte de l'époque. Ceux qui aujourd'hui, tout en se prétendant disciples de Jésus-Christ, contesterait ces textes, ce que nous partageons, en disant « mais la situation a changé ». Voyez dans quel monde nous sommes aujourd'hui. On ne peut plus l'appliquer de cette manière. Eh bien, pardon de le dire ainsi, mais il se mettrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que dans les différents domaines évoqués, dans les différentes sphères évoquées, à l'époque où Pierre rédige sa première épître, la situation était extrêmement difficile. Et je dirais qu'en fait, elle était même par certains côtés plus difficile que ce que nous vivons en ce moment en France, pour ne parler que de la France. Si j'étais en Chine, je dirais autre chose. Mais pour la France, c'est vrai qu'en ce moment, nous n'en sommes pas encore en tout cas tout à fait là, que ce soit au niveau des autorités politiques. Vous vous souvenez du nom du potentat qui était sur le trône à Rome au moment où cette épître était rédigée, Néron. Dites-moi, c'est chic, hein, c'est excellent comme exemple d'exercice de l'autorité, hein. Et ça ne s'est pas arrangé ensuite. Parce qu'alors, vers la fin du premier siècle, avec par exemple Domitien, le Néron chauve, qui a persécuté, mais de manière terrifiante, les croyants, et qui était fou de sa divinité, puisque même les animaux, en quelque sorte, étaient censés lui rendre hommage en tant que Seigneur suprême. C'est absolument incroyable quand on lit les cantiques à la divinité et qui ont dû être écrits vers la fin du 1er siècle pour honorer la seigneurie de l'empereur de cette époque. Et il y a eu des persécutions très sauvages à cette époque. Nous pourrions évoquer les relations maître-esclave. C'est vrai qu'il y avait des situations où il valait mieux être esclave qu'avoir un autre statut. Mais malgré cela, la condition de l'esclave était loin d'être une condition facile. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. La relation femme-mari, il faut reconnaître qu'à Rome et dans les principales villes de l'Empire, il y avait, nous étions dans une époque d'émancipation. Il y avait un mouvement féministe déjà à cette époque. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette époque au niveau de la vie de famille, aussi de l'absence d'éducation des enfants. Mais en Asie mineure, dans cette région de Turquie, l'autorité du mari sur sa femme était absolue. Suivant les endroits où vous vous situiez dans l'Empire, la situation pouvait être très différente. Mais dans cette région où Pierre écrit, les femmes souffraient sous une autorité despotique du mari. Nous en reparlerons sans doute. Alors, voyez, comment faire face à la mentalité de l'époque en tant que croyant? Et puis dans l'Église, eh bien, il y a toujours eu les plus jeunes. Alors, cette question se pose aujourd'hui de manière brûlante, dans un contexte de crise des institutions, de crise du travail, de crise du mariage, et vraiment, disons-le, n'hésitons pas à le dire, de crise dans l'Église. Comment le croyant doit-il réagir dans ces différents domaines? Et ceci en particulier parce que l'idée de soumission à une autorité est passée de mode et totalement contestée. Cela va déjà à l'encontre de notre tendance naturelle, parce que la tendance naturelle de l'homme, de la personne, est une tendance à dominer. Ça s'est inscrit, hélas, dans notre programme intérieur très orgueilleux. Cette idée de soumission heurte de plein fouet les concepts contemporains de permissivité, de liberté. Il y a une levée de bouclier, une vague de protestation dès que l'on parle de soumission. Soumission, c'est une forme d'oppression que l'on ressent. L'autorité est devenue suspecte, elle a perdu sa crédibilité à cause des mauvais comportements de ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est vrai que nous sommes tentés de nous appuyer sur les innombrables exemples d'abus de toutes sortes pour contester la nécessité de la soumission. Et puis, il y a les effets en cascade du rejet de Dieu dans son autorité, du rejet de la loi de Dieu. Alors là, nous avons dans la deuxième épître de Pierre un texte très très fort, 2 Pierre 2, versets 10 et 11, je vais lire à partir du verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux, réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, qui méprisent littéralement la seigneurie, la souveraineté. Il y a le mot seigneur dedans. Donc il s'agit de l'autorité du Seigneur en particulier, mais telle qu'elle est aussi déléguée dans ces différentes sphères. N'est-ce pas? Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 10, « Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Et vous avez dans l'épître de Jude, un petit peu plus loin, dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, donc ce sont les versets 8 et 9, Jude 8 et 9, « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, c'est le même mot, la seigneurie, l'autorité de Dieu, et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Voilà donc, déjà à cette époque, n'est-ce pas, ces effets du rejet de Dieu et de son autorité. Développement de l'égoïsme, de l'égocentrisme, orgueil qui rejette tout ce qui apparaît comme un joug, comme une entrave à l'épanouissement de soi, du je, du moi. Alors, pour terminer cette étude de base, cette première partie, simplement quelques citations qui nous font réfléchir. La vraie grandeur n'est pas de commander, mais de savoir obéir. Tout le monde peut donner des ordres, bien peu savent se soumettre. Signature Blaise Pascal. La vraie autorité repose sur l'obéissance. Signature Goethe. Et plus près de nous, un homme de notre temps, un homme de Dieu, nous avons de l'autorité dans la mesure où nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Et toutes ces citations sont remarquablement illustrées par la personne de Jésus-Christ lui-même. Et je voudrais laisser en toile de fond, avant que nous entrions alors au cœur de notre sujet, deux textes fondamentaux, celui de Philippiens chapitre 2, versets 5 et suivants. Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments ou la pensée, une question de mentalité, de pensée, qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est vidé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Et c'est là le mot « esclave ». Vous avez 6 ou 7 mots qui, dans le vocabulaire du Nouveau Testament, peuvent être rendus par serviteur. Et ça, c'est le mot qui est le plus bas dans l'échelle des termes serviteurs. Prenant une forme de serviteur ou d'esclave, devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié, abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et puis nous avons ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 7. Hébreux 5, verset 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc dans l'incarnation, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et ici, nous avons un mot, vous avez en tout cas 2 ou 3 mots qui peuvent être rendus en français par le mot piété. On pourrait le rendre peut-être ça éclairerait le sens, il a été exaucé à cause de sa soumission humble et respectueuse. C'est là la signification du mot. Il a été exaucé à cause de sa soumission humble et respectueuse. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Deux beaux textes qui mériteraient de longs développements, mais nous devons absolument avancer. Mais disons-le, peut-être que, oui, ou peut-être c'est certain, si nous avons dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, si peu d'autorité, c'est parce que nous sommes tellement peu obéissants. C'est Dieu qui délègue l'autorité. C'est Dieu qui donne tout son poids à l'autorité qu'il délègue. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Soumission, autorité et soumission dans l'Église. De même. Nous l'avons vu, donc cela appartient à ce grand thème de la subordination étudié à partir du chapitre 2, verset 13. Et bien entendu, on ne peut pas partir du verset 5, il faut partir du verset 1er. Et voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. D'ailleurs, dans la phrase grecque, le mot « ancien » vient en tête. Commence par là. « Les anciens, donc, parmi vous, j'exhorte. » Voilà comment la phrase a été construite. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. » Les anciens. Voilà un mot intéressant. Presbus. Presbus. Il n'est pas question d'autobus. Un petit mot qui en grec classique veut dire vieux, mais pas dans notre sens, qui est devenu péjoratif. Les vieux, ils n'y comprennent rien. Mais je dirais dans le sens un peu africain. Quand vous êtes en Afrique, il m'est arrivé de... Je vais de temps en temps en Afrique, nous allons y partir dans quelques semaines et on va voir les vieux. Et il fait bon s'asseoir pour discuter avec les vieux. Ils sont vénérables. Ils ont un savoir, ils ont une expérience. Ils ont beaucoup à partager. C'est donc un mot qui est teinté de, oui, de respect, de vénération. Il était utilisé aussi même pour désigner des chefs, des princes, des ambassadeurs. Et le terme que nous avons ici, ce n'est pas presbus, mais presbutéros, qui veut dire plus vieux. Plus vieux, pas comme le temps, mais en deux mots. Et nous savons que le terme et la fonction sont empruntés à la structure des communautés du judaïsme groupées en Palestine et dans la dispersion. Les anciens, une fonction importante, reconnus dans l'Église locale, les anciens qui sont parmi vous, qui sont dans vos églises locales.
les anciens, au pluriel. Et ça, c'est une des grandes particularités des Écritures quand elles traitent de cette question. Les anciens, toujours au pluriel, dans le texte, sauf quand il s'agit de décrire la fonction. Quand on donne la carte d'identité de l'ancien, son cahier des charges, ses qualités, son caractère, quand on le présente dans ce qu'on appelle les épîtres pastorales, essentiellement la première à Timothée et l'épître à Tite, le mot est parfois au pluriel, parfois au singulier, mais il est au singulier simplement quand il s'agit de présenter la carte d'identité. Il est aussi au singulier de manière totalement exceptionnelle au seuil de la deuxième et de la troisième épître de Jean, l'ancien à Kyria l'élu. Mais ça, c'est tout à fait exceptionnel. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il faut se souvenir qui est cet ancien. Cet ancien, c'est un vénérable vieillard qui est quasi centenaire quand il écrit, qui est le dernier survivant de l'équipe apostolique, des apôtres, témoins vivants, n'est-ce pas, du temps de Jésus-Christ au milieu des hommes. Il est le dernier. Dieu l'a maintenu en vie jusque-là dans sa souveraineté parce que il avait pour lui un ministère tout à fait spécial, très nécessaire à la fin du premier siècle, parce qu'était en train de se développer un courant qui a menacé l'Église comme une véritable lame de fond qu'on a appelée le gnosticisme, qui était déjà frémissant depuis le début des années 60, qui s'est développé beaucoup plus fortement à partir des années 90, et puis qui a vraiment troublé l'Église au deuxième et au troisième siècle. Et Dieu a utilisé l'apôtre Jean, il en a fait un conducteur tout à fait particulier, dernier témoin, connu dans l'ensemble de l'Asie mineure. Il a résidé pendant pas mal d'années à Éphèse, la grande capitale de l'Asie mineure, d'où il rayonnait, d'où il enseignait, où on venait le voir pour aussi recueillir toute sa sagesse spirituelle, et ceci jusqu'à ce qu'il soit rappelé auprès du Seigneur. Et vous savez la richesse extraordinaire de son évangile et des épîtres, et puis le message tout à fait particulier de l'Apocalypse, rédigé dans des circonstances extrêmement pénibles, puisqu'il est alors exilé à cause de sa foi sur une toute petite île où il voit peut-être des choses très difficiles à vivre. Donc il est l'ancien dans une dimension tout à fait exceptionnelle. Ce n'est rien de normatif. Les anciens, nous avons 1 Timothée 4:14, qui est très intéressant, 1 Timothée 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, c'est-à-dire dans le cadre d'une prédication de la parole de Dieu, avec l'imposition des mains, non pas avec l'imposition des mains dans ce sens qu'il se serait produit une sorte de miracle sacramentel, une opération mystérieuse de la part de Dieu, n'est-ce pas, juste à ce moment-là. En réalité, la construction de cette petite phrase « avec l'imposition des mains » indique que c'est ce qu'on appelle un accompagnement. Dieu a accordé, au travers de la prédication, un don. Quelqu'un a été interpellé, ce quelqu'un s'appelait Timothée, Dieu a parlé à son cœur. Et puisqu'il a parlé à son cœur, que son don a été reconnu, il y a eu ensuite une imposition des mains pour accompagner en quelque sorte l'acte de Dieu, puisque c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui donne. Donc ne voyons pas derrière cette imposition des mains ce que Dieu n'y met pas. Ne néglige pas le don, oui, et ensuite vous avez remarqué, je voulais en venir là, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains, de l'assemblée des anciens. C'est un seul mot dans le texte grec, on le rend par le collège des anciens, presbyteriou. C'est donc le collège des anciens, une collégialité. Il faut être clair, il s'agit d'une collégialité. D'ailleurs, Pierre va souligner qu'il est ancien comme eux, co-ancien, littéralement, dit le texte, co-ancien, ancien avec eux. Ce qui va donc aussi placer tout dogme qui ferait de Pierre le vicaire, le premier vicaire de Christ et le premier pape, en porte-à-faux total avec les Écritures, n'est-ce pas ? Et simplement, ce verset qui fait de Pierre, et c'est Pierre lui-même qui le dit, je fais partie d'une équipe. Je suis co-ancien, je suis ancien avec d'autres. Il y a en quelque sorte égalité dans l'équipe, égalité de fonction. Inévitablement, cela s'oppose à certaines conceptions que nous ne pouvons pas accepter concernant la papauté, malgré tout l'amour que nous avons pour les personnes. Nous ne pouvons que haïr les positions doctrinales qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Donc, redisons-le, la direction de l'Église locale et collégiale. C'est une protection contre certains risques de dérapage, toute forme de dictature, de monarchie à la tête de l'Église, d'arbitraire. Nous rejoignons ce que disent les Écritures déjà dans l'Ancien Testament, deux valent mieux qu'un. La corde à trois fils ne rompt pas. Et il y a tant d'autres passages qui vont dans cette direction. Faut-il dire au passage que le mot « prêtre » est une contraction dans son étymologie, dans le sens du mot grec « presbyteros ». Vous avez le « but » du milieu qui a disparu. Vous avez le « s » de « presby » qui a été remplacé par un accent circonflexe que vous avez sur « prêtre », contraction d'un mot, le prêtre étant normalement conducteur de l'Église, mais c'est là, une fois de plus, qu'il y a un décalage dans le système catholique romain par rapport aux Écritures, le prêtre devenant à quelque part une sorte de médiateur, on le situe à un échelon hiérarchique supérieur et ne s'inscrivant pas dans la collégialité qui figure notamment dans ce texte, mais dans une quantité d'autres textes des Écritures. J'aimerais ici, en évoquant l'équipe des anciens, vous citer quelques textes très intéressants. L'auteur d'un livre qui traite au passage de la collégialité, écrit ceci. Le responsable chrétien est appelé à servir, à rechercher non son intérêt, mais celui d'autrui. Ce principe très simple devrait le garder de l'individualisme et de l'isolationnisme et du désir de construire un empire autour de sa personne. Car c'est au sein d'une équipe que l'on parvient le mieux à servir autrui. L'exercice collégial de la responsabilité est plus sain que son exercice solitaire. Cela tient à plusieurs raisons. Premièrement, les membres d'une équipe se complètent les uns les autres. Ils construisent en s'appuyant sur les forces de chacun et pas liés à ses faiblesses. Deuxièmement, les membres d'une équipe s'encouragent les uns les autres. Ils discernent les dons des uns et des autres et ils les poussent à les développer et à les utiliser. Être un dirigeant chrétien, cela ne consiste jamais à s'affirmer soi-même, mais toujours à encourager d'autres à s'affirmer eux-mêmes. Troisièmement, les membres d'une équipe sont responsables les uns devant les autres. Le partage du travail implique le partage de la responsabilité. On apprend ainsi à s'écouter les uns les autres, à apprendre les uns des autres. La famille humaine et la famille divine, le corps de Christ, sont tous deux des lieux où les illusions naissantes de grandeur s'évanouissent rapidement. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Un auteur des pays nordiques évoque les oies sauvages, et mon épouse et moi, déjà l'an dernier, nous étions au Québec, au nord du Québec, en Gaspésie, au mois de mai, et nous avons vu des milliers de ces vols d'oies sauvages. Alors on a appris un tas de choses à ce moment-là. Et un auteur, à leur propos, écrit ceci: « Ces grands oiseaux qui parcourent de très grandes distances possèdent trois qualités remarquables. Premièrement, le leadership, ça sont les anglicismes fréquents, hein, la direction, on n'a pas de mot exactement équivalent, le menariat, la direction alterne. Aucun oiseau ne demeure tout le temps en avant. Deuxièmement, ils choisissent des leaders, des conducteurs qui peuvent supporter les turbulences. Et finalement, pendant tout le temps où un oiseau est leader, les autres cacardent leur acceptation. » Et l'auteur de faire le commentaire suivant: « Ce n'est pas un mauvais modèle pour l'Église. Nous avons certainement besoin de chefs qui peuvent supporter les turbulences, qui sont conscients que la direction doit être partagée, mais par-dessus tout, nous avons besoin d'une Église où tous cacardent leurs encouragements. » Alors si vous êtes tenté de tomber sur le dos des anciens de cette Église après certaines des choses que nous aurons dit d'ici dimanche, souvenez-vous qu'il vaut mieux cacarder que cafarder, et je ne sais quel autre mot encore. Encore une autre illustration: lors d'une épreuve de force pour chevaux, la première place fut accordée à un cheval qui avait déplacé un traîneau pesant quelque 2040 kilos. Le cheval qui mérita la deuxième place avait tiré quelque 1814 kilos. Alors les propriétaires des deux chevaux gagnants se demandèrent quel fardeau leurs chevaux pourraient tirer s'ils étaient attelés ensemble. Alors ils les attelèrent, chargèrent le traîneau, et à la surprise de tout le monde, les chevaux purent tirer quelque 5440 kilos. Que Dieu est sage d'avoir prévu une direction collégiale. Et il a voulu être modèle de direction collégiale dans ce grand mystère que nous appelons la Trinité, quoique le terme ne figure pas dans les Écritures, mais la doctrine y est de manière claire. Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais elle ne fait plus problème à notre foi lorsque nous marchons près du Seigneur. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, unité avec autorité, avec subordination, le Fils étant soumis au Père, le Saint-Esprit étant soumis au Fils et au Père, avec des fonctions communes, mais aussi avec des fonctions différentes et uniques. Le Saint-Esprit n'est pas mort sur la croix, c'est le Fils qui est mort sur la croix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé à la création, soutiennent le cosmos actuellement, participent ensemble à l'octroi des dons spirituels, etc., etc. Il suffirait de creuser tant soit peu en profondeur ce merveilleux mystère de la Trinité pour comprendre pourquoi Dieu veut la collégialité dans la direction de l'Église locale. Le temps a passé. Et je voudrais quand même, nous verrons d'autres choses, notamment dimanche matin, mais je voudrais simplement, à partir de là, en quelques mots et surtout en quelques illustrations, souligner que non seulement il doit y avoir collégialité parce qu'il y a complémentarité dans une équipe d'anciens, mais qu'il faut que toute l'Église réalise sa complémentarité. Nous avons besoin les uns des autres. L'équipe du Conseil d'anciens doit être et de plus en plus modèle dans ce domaine de l'interdépendance, du partage des responsabilités, de la solidarité, de la complémentarité. Ils doivent être modèles pour l'Église locale. Ils doivent donner envie à l'Église locale de vivre l'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres. Mais dites-moi, mes bien-aimés, que ferais-je ici ce soir si vous n'y étiez pas? J'ai besoin de votre présence pour exercer mon ministère. Il me souvient, il y a déjà quelques années de cela, invité par une fédération d'églises évangéliques en Côte d'Ivoire pour une semaine d'enseignement à des pasteurs et anciens de diverses unions d'églises. Nous étions trois orateurs, deux Africains et moi-même, et l'un de mes chers amis africains de traiter de la question des dons, dans l'exercice des dons dans l'Église. Et je le vois encore avec son sourire tellement merveilleux, et il vit actuellement une douloureuse épreuve, qui s'est tourné vers l'auditoire de ces pasteurs, de ces anciens, de ces missionnaires, pour leur dire, vous savez, il faut des pelles à côté des pôles. Et il faut des pôles à côté des pelles. Paul, P-A-U-L, pelle, P-E-2-L-E-S. Hein? Les pelles ont besoin des pôles, et les pôles ont besoin des pelles. On a beau s'appeler l'apôtre Paul, ben on a besoin de pelles à côté de soi. Nous avons besoin les uns des autres. Je bénis Dieu pour l'Église. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes sœurs. Combien de fois, dans les dizaines de vies de marche avec Christ, qui sont les miennes, j'ai été au bénéfice du ministère de mes frères et sœurs. J'ai été gardé, j'ai été ramené dans la volonté de Dieu. J'ai été exhorté, j'ai été encouragé. Nous avons besoin les uns des autres. Il existe en quelque sorte une collégialité générale, si vous voulez. Ce n'est pas le terme biblique qui est employé. Mais en fait, il y a la collégialité de toute l'Église. Si nous nous rendions compte combien chacun de nous est précieux pour l'autre, combien nous sommes appelés à nous édifier, à nous encourager, à nous supporter, à nous aimer. Vous savez, ces commandements réciproques, hein, qui sont pratiquement la quarantaine dans le Nouveau Testament. Et j'ai ici, permettez que je termine avec ces illustrations, parce que souvent les illustrations, on les retient, hein, pendant des années, et elles peuvent beaucoup servir. Il s'agit d'une femme nouvellement affectée comme interne à l'hôpital. Et elle raconte qu'elle aidait le chirurgien a fermé une incision qui nécessitait une longue couture. Et voilà que le fil se noue. Le chirurgien tire dessus pour essayer de défaire le nœud, mais ne parvient qu'à le serrer davantage. Alors, l'aide de lui offrir son assistance, et il dédaigne. Finalement, elle dit, il me lançait un regard furieux, dit, bon, essayez. Et cette femme de dénouer aussitôt le fil. Et le chirurgien dit, mais comment avez-vous fait? Je suis chirurgien depuis 12 ans et moi, je fais de la broderie depuis 15. Un organiste accompli donnait un concert. Et c'était l'époque, et je me souviens très bien parce que j'ai été élevé au point de vue religieux dans le cadre d'une église protestante à la frontière du Luxembourg. Et nous avions une église avec son clocher et tout le reste, et de grandes orgues magnifiques avec le soufflet. Ah, et je me suis parfois exercé à permettre à l'orgue de fonctionner. Il fallait appuyer et monter pendant tout le temps où on jouait, n'est-ce pas, où l'organiste jouait. Et donc, après chaque morceau, le musicien recevait un tonnerre d'applaudissements d'un public ravi. Avant son dernier morceau, l'organiste se lève et dit « Je jouerai maintenant » et il annonce le titre. Il s'assoit à la console, il dispose ses feuilles de musique, vérifie les clés, les pieds immobiles au-dessus des pédales, les mains au-dessus des touches. Il commence par un puissant accord, mais l'orgue demeure silencieux. Et on entend alors une voix venant des coulisses, « Dites-nous !» Dites-nous. Nous avons besoin les uns des autres. Les frères Tans, T-A-O-N-S, ont besoin des frères chiens de garde. Et dans un conseil d'anciens, il y a les Tans et les chiens de garde. Les Tans, ce sont ceux qui piquent, parce qu'ils voudraient que ça aille plus vite, parce qu'ils voudraient qu'on soit ouvert à des idées nouvelles, qu'on ne soit pas trop frileux, qu'on s'avance parfois en territoire un peu plus inconnu. Alors ils piquent, ils piquent dans le conseil d'anciens, l'ancien de droite, l'ancien de gauche. Hein. Et puis alors il y a les frères chiens de garde, les anciens chiens de garde, ça sont ceux qui aboient. Dès qu'ils sentent que on est en train de quitter la voie de l'orthodoxie doctrinale et qu'on s'engage. Bon, bref, vous comprenez alors. On montre les dents. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, il ne faut pas quand même que les chiens de garde mangent les dents et que les dents piquent trop. Les chiens de garde. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin, je le disais dimanche à Draguignan, des sœurs Clos et des frères Marteau. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Je voulais simplement terminer avec cette pensée. Nous continuerons dimanche matin, à traiter la suite de ce beau texte. Nous verrons le temps que nous prendrons, nous verrons ce que nous dirons. Mais que Dieu bénisse déjà tout ce que nous avons partagé ce soir, les deux rencontres qui suivent, demain soir et samedi soir, sont réservées aux anciens, et puis aux anciens, aux diacres. Nous avons des choses à partager, toujours sur ce thème. Et je suis persuadé que tous les amis qui ne seront pas là demain soir et samedi soir auront en tout cas à cœur de prier pour que les rencontres, j'allais dire à huis clos, que nous aurons dans la paix du Seigneur, simplement à l'écoute de sa parole et dans un temps de partage, seront fructueuses pour la suite de la vie de cette chère église ici à La Bocca et des autres églises, pourquoi pas, de la région. Nous voulons prier. Seigneur, un grand merci d'avoir pu simplement ce soir laisser parler le Saint-Livre. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui a présidé à l'inspiration de ces textes. Merci pour cette autorité qui vient tout droit du ciel. Nous te bénissons de nous avoir donné ta parole. Nous te remercions pour ces beaux textes et pour tout ce qu'ils disent à notre cœur. Merci pour l'autorité. Merci aussi pour la subordination. Merci de pouvoir vivre selon ton ordre à toi, harmonieux, beau, plein d'amour, plein de grâce. Nous te bénissons pour cela. Merci pour la collégialité. Merci parce que tu nous sais vulnérables, fragiles, enclins à l'orgueil, à l'autosuffisance, à l'indépendance, à l'égocentrisme. Nous te bénissons pour la collégialité, pour l'interdépendance, pour la possibilité de nous encourager les uns les autres, de nous supporter, de nous pardonner et de faire tant d'autres choses encore, de nous soumettre les uns aux autres, comme le dit ta parole. Seigneur, mets ton sceau sur ce que nous avons partagé, puis donne-nous soif de passer beaucoup plus de temps dans ta parole pour nourrir nos cœurs, pour savoir comment vivre dans l'Église, comment vivre dans la société, comment vivre la vie professionnelle, comment vivre la vie conjugale, la vie familiale. Merci, parce qu'il y a dans ta parole tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie dans ces différentes sphères d'autorité déléguée et de subordination. Tu veux nous raccompagner ce soir, tu veux nous renouveler, merci de bénir notre repos et de préparer déjà par avance les rencontres plus restreintes demain soir, samedi soir et le temps que nous passerons ensemble dimanche matin dans le culte que nous voulons te rendre et dans l'enseignement de ta sainte parole. Merci pour ta grâce avec nous en Jésus-Christ. Amen.